Je vous présente NetCDF. Qu'est-ce que c'est? C'est à la fois un format de fichier et des bibliothèques, donc du logiciel pour créer, lire, modifier des fichiers qui sont dans ce format. La vocation première de NetCDF, c'est de stocker des tableaux de nombres multidimensionnels. C'est conçu pour ça, efficace pour ça. Et donc des tableaux de nombres multidimensionnels, vous voyez bien que c'est principalement destiné, principalement très adapté à l'informatique scientifique. Les fichiers NetCDF ont par convention le suffixe .nc. Les bibliothèques qui permettent de manipuler ces fichiers existent dans différents langages de programmation. On dit que ce sont des API, ces bibliothèques, des Application Programming Interfaces. Et donc il y a une API pour manipuler les NetCDF en Fortran, une autre en C, etc. Page 3. NetCDF est développé par un organisme public américain depuis 1988, donc depuis longtemps. C'est très solide et toutes les bibliothèques NetCDF sont libres et gratuites. Page 4, c'est extrêmement utilisé, c'est devenu indispensable en météo et en océanographie. Donc vous y échapperez pas. C'est aussi utilisé dans d'autres domaines. Donc on me dit que c'est aussi beaucoup utilisé en géologie. Et ça a un énorme succès. Donc les conséquences de ce succès, c'est qu'il y a des dizaines de logiciels gratuits qui permettent de manipuler les fichiers NetCDF. Alors manipuler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut en extraire des morceaux. On peut recombiner des fichiers entre eux, faire des opérations sur des fichiers. Voilà, par exemple. Page 5. Donc, quel est le but des fichiers NetCDF? Je l'ai dit, c'est de stocker des tableaux de nombres multidimensionnels. Donc, par exemple, si je prends un exemple de météo, on veut stocker la température dans un certain domaine tridimensionnel, un certain domaine de l'atmosphère par exemple. Et donc le principe c'est qu'on ne veut pas stocker seulement les valeurs de la température, mais on veut aussi stocker dans le fichier la position associée à chaque valeur. Donc c'est l'idée de coordonnées. On va stocker dans le fichier NetCDF les coordonnées. Et les coordonnées, c'est quoi? Ce sont des vecteurs, donc des tableaux à une dimension. Trois vecteurs simplement pour un champ tridimensionnel. En l'occurrence, typiquement pour l'atmosphère, ça va être un vecteur longitude, un vecteur latitude, un vecteur pour une coordonnée verticale, par exemple altitude. Et donc chaque indice de vecteur de coordonnées va correspondre à un indice dans le tableau du champ tridimensionnel de température. Donc on sait par convention que l'indice 1, 3, 2 du tableau tridimensionnel de température correspond à la position 1 dans la première dimension, 3 dans la deuxième dimension, etc. du vecteur de coordonnées correspondant. Page 7. Donc vous remarquez que les coordonnées prennent très peu de place par rapport au champ, puisqu'on ajoute trois vecteurs par rapport à la multiplication des trois tailles de vecteurs pour le champ. Et puis, troisième chose qu'on veut stocker, donc en plus du champ de température, en plus des coordonnées correspondant à ce champ, on veut aussi stocker ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire ce qui décrit la signification du champ, donc par exemple l'unité. Et puis des informations supplémentaires comme d'où viennent ces valeurs de température, de tel modèle de simulation de l'atmosphère ou de telle observation, etc. Page 8. Donc, le fichier NetCDF va contenir toutes ces informations, les champs multidimensionnels, les coordonnées et les métadonnées. Et c'est en ce sens qu'on dit que le format NetCDF est autodescriptif. Page 9. Le fichier NetCDF est un fichier binaire. Donc, sans entrer dans une discussion théorique sur ce que ça veut dire, d'un point de vue pratique, ça veut dire que vous ne pouvez pas le voir le contenu du fichier avec une commande Unix comme cat. Vous ne pouvez pas l'ouvrir avec un éditeur de texte pour voir ce qu'il y a dedans, ni avec un traitement de texte, ni avec un tableur, etc. Il faut un outil spécial pour voir ce qu'il y a dedans. Page 10. Donc ça, c'est un inconvénient. Il n'est pas lisible comme ça avec les outils qui lisent le texte. Mais quels sont les avantages du format binaire? Ben, l'avantage, c'est que la taille du fichier est réduite par rapport à un fichier de texte. Pour comprendre ça, on peut prendre l'exemple d'un nombre, un seul nombre. Par exemple, ici, j'ai écrit le nombre 8,32, etc., 86,22 fois 10 puissance moins 17. Si vous stockez ça en texte, quelle est la taille que ça va prendre? Ben, ça va prendre la taille de 12 caractères, puisque là je l'écris, si je compte 12 caractères pour écrire ce nombre, un octet par caractère, donc ça fait 12 octets. Alors que si on stocke ça en binaire, c'est un nombre réel, et bien on va pouvoir stocker ça sur 4 octets. Il y a un codage de tous les nombres réels avec, là comme celui-là, il a 6 ou 7 chiffres significatifs, ça peut se stocker sur 4 octets. Donc vous voyez qu'il y a un facteur 3 en espace occupé dans le fichier. Donc premier avantage, taille réduite du fichier. Deuxième avantage, rapidité d'exécution du programme qui lit ou écrit ce fichier, parce que le programme qui va utiliser les valeurs utilise les valeurs en binaire. Donc il faut, si on lit ou on écrit en texte, il faut convertir de binaire vers texte. Alors que si on lit ou on écrit en binaire, il n'y a pas de conversion à faire. Et troisième avantage, l'exactitude, puisque la valeur stockée est exactement la valeur utilisée par le programme, il n'y a pas de conversion à nouveau. Et puis, donc il faut être conscient donc que entre la représentation textuelle qui est en base 10 et la représentation binaire interne à la machine qui est en base 2, il n'y a pas forcément une représentation, il n'y a pas forcément exactitude de la conversion sur un nombre limité de chiffres binaires ou chiffres décimaux. Par exemple, si je considère le nombre 0,1, donc il s'écrit exactement avec trois chiffres décimaux, pardon, avec deux chiffres décimaux, 0 et 1, 0,1. Mais je ne peux pas l'écrire de façon exacte avec un nombre fini de chiffres binaires, donc de bits, parce que la représentation binaire, elle est infinie. Et donc là, je l'ai écrite 0,1 en binaire, ça s'écrit 0,000. Et puis après, il y a le motif 1100 qui se répète à l'infini. Voilà, donc avantage du format binaire, la valeur stockée est exactement la valeur utilisée puisqu'il n'y a pas de conversion. Page 12. Donc le format NetCDF, donc c'est un format binaire. Il a les avantages du binaire et il a très peu d'inconvénients parce que alors on va voir pourquoi. Donc on peut stocker toutes ces informations dans le fichier NetCDF sans se préoccuper de où on les stocke, c'est-à-dire On n'a pas à se préoccuper à avoir de conventions sur est-ce qu'on va stocker d'abord la valeur du tableau multidimensionnel, puis les coordonnées au début du fichier, ou puis les métadonnées, tout ça. Tout ça est automatiquement géré par NetCDF. Et puis, page 13, le fichier que vous créez est portable. Ça veut dire que vous pouvez créer un fichier sur n'importe quelle machine et le lire sur n'importe quelle autre machine. Ça peut être des systèmes d'exploitation différents. Vous pouvez passer de Windows à Linux à Mac. Et puis si vous êtes, vous l'ouvrez avec un langage de programmation comme Python ou Fortran, ça peut être, si c'est Fortran, ça peut être avec un compilateur différent, etc. Donc c'est parfaitement portable, ça c'est important. Et puis dernier avantage, on peut lire le fichier NetCDF facilement, même si on ne peut pas le lire avec un éditeur de texte, on peut le lire facilement avec des utilitaires gratuits, et notamment NCDump qui est automatiquement installé quand vous installez la bibliothèque NetCDF. On va voir comment on se sert de cet utilitaire NCDump. Donc page 14, NCDump, on écrit dans un terminal NCDump le nom du fichier. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça a écrit à l'écran tout le contenu du fichier. Donc ça convertit le binaire en texte. Alors en général, c'est pas très utile de faire ça parce que c'est trop long. Tout ce que va afficher le fichier, c'est trop long. Donc il va vous sortir à l'écran le contenu de tous les tableaux multidimensionnels qui sont dans le fichier, en mettant toutes les valeurs des tableaux multidimensionnels les unes à la suite des autres. Donc ça, en général, c'est pas très utile de faire juste ncdump le nom du fichier. Page 15, ce qui est plus utile, c'est de faire ncdump avec l'option tiret petit h, le nom du fichier. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça affiche seulement ce qu'on appelle l'entête du fichier, donc h pour header. L'entête, c'est les métadonnées du fichier. On va voir à quoi ça ressemble. Page 16, dans l'entête, il y a trois parties. Première partie, les dimensions du fichier. Ces dimensions ont un nom et une valeur entière. Page 17, typiquement le nom, ça va être la longitude, la latitude et l'altitude, par exemple, pour un champ atmosphérique. Donc je vous encourage à taper cette commande sur un fichier NetCDF pour le voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir? La deuxième partie de l'entête, c'est les variables. Donc les variables, elles ont un type, un nom et des dimensions entre parenthèses. C'est les dimensions qui sont dans la première partie. Le nombre de dimensions, ça peut être 0 ou plus. 0, c'est un scalaire. Pour chaque variable, vous allez voir qu'il y a des attributs. Certains attributs sont conventionnels et assez importants. Il y en a un qui s'appelle unit pour l'unité, long name, missing value, c'est pour dire quelle valeur représente une valeur manquante dans le tableau. Page 18. Et enfin, la troisième partie de l'entête, c'est les attributs globaux, c'est-à-dire c'est des attributs qui concernent non pas une variable en particulier, mais l'ensemble du fichier. Donc là, par exemple, on va dire d'où viennent l'ensemble des variables de tel ou tel modèle, etc. Page 19. Dans un fichier NetCDF, il y a les coordonnées. Alors, ce qu'on appelle coordonnées dans un fichier NetCDF, c'est une variable à une dimension, donc un vecteur, dont le nom est identique. Le nom de la variable est identique au nom de la dimension. Donc normalement, il doit y avoir une coordonnée par dimension du fichier. Donc les coordonnées, on a vu que ça correspondait aux valeurs, les indices des coordonnées correspondent aux indices des variables multidimensionnelles. Page 20. Donc cette convention, le fait que le nom de la coordonnée doit être le nom de la dimension, donc elle est reconnue et traitée spécialement par les utilitaires qui lisent les fichiers NetCDF, donc faites attention à ça. Et convention supplémentaire aussi, la coordonnée doit être strictement monotone, strictement croissante ou strictement décroissante, les valeurs de la coordonnée. Page 21, on a vu l'option -h de ncdone pour faire apparaître l'en-tête. Il y a aussi une option intéressante, c'est -c. -c pour faire apparaître non seulement l'en-tête, mais aussi les coordonnées. Et l'option -t, c'est pour faire apparaître les variables temporelles sous une forme, textuelle. Donc vous essayerez pour voir ce que ça fait avec -t et sans -t. Donc -c fait apparaître les coordonnées, les valeurs des coordonnées en plus. Page 22, ce qu'on appelle les variables primaires, c'est les variables autres que les coordonnées. Et on peut les voir avec l'option -v et puis le nom de la variable qui vous intéresse. Alors ça peut être utile pour une variable à une dimension, pour une variable à plusieurs dimensions. Comme tout à l'heure, comme on mettait ncdum sans option, c'est pas très lisible de mettre ncdum-v une variable avec une variable multidimensionnelle. Si vous voulez voir un bout d'une variable multidimensionnelle, ce qui est intéressant, c'est l'utilitaire ncks. C'est un utilitaire qui fait partie d'un ensemble d'utilitaires qui s'appelle NCO, NetCDF Operators, que vous pouvez télécharger. Donc ça permet d'afficher une tranche d'une variable multidimensionnelle. Et la syntaxe pour ça, page 24, c'est d'écrire ncks-v, la variable qui vous intéresse, et puis -d, le nom de la dimension, et puis la valeur qui vous intéresse dans cette dimension, ou les valeurs qui vous intéressent dans cette dimension, avec les arguments min et max de l'argument, les arguments min et max de l'option -d. Alors un détail important, pour min et max, si vous ne mettez pas de point décimal dans min et max, ça fait référence aux indices dans la dimension. Alors que si vous mettez un point décimal dans min et max, ça fait référence aux valeurs de la coordonnée dans cette dimension. Page 25. Il existe aussi de très nombreux logiciels graphiques pour qui lisent des fichiers NetCDF. Page 26, et là je vous cite simplement une toute petite sélection de logiciels graphiques, du plus simple dans un ordre du plus simple au plus complet. Alors le plus simple que je connaisse, c'est NCView. Donc là il faut juste lancer NCView et cliquer sur une variable pour voir le graphique. Un peu plus complet et un peu plus complet, Panoply. Un peu plus fort aussi, Grads et Ferret, et puis GMT que vous avez peut-être déjà vu. Donc Grads, c'est plutôt orienté données atmosphériques. Ferret, c'est plutôt orienté atmosphère, océan. GMT, c'est plutôt orienté géophysique. Et puis encore plus puissant, donc vous pouvez ouvrir le fichier depuis Python avec un module comme netcdf4 ou Xray, et puis à partir de là faire des graphiques avec Matplotlib. Vous pouvez aussi ouvrir un fichier netcdf avec Matlab, IDL, etc. Page 27, vous pouvez lire un fichier netcdf en C, Fortran, Java, donc vous pouvez télécharger les interfaces pour les bibliothèques pour lire ces fichiers en C, Fortran, Java. Et puis il y a des interfaces pour lire ces fichiers, donc j'ai déjà dit en Python, il y a les modules netcdf4 et Xray, il y a des interfaces en R, en Ruby, en C++ et en MATLAB, etc. Page 28, conclusion, donc NetCDF, c'est extraordinaire. C'était une grande avancée d'avoir le format NetCDF. Et donc si vous avez besoin de stocker simplement des scalaires ou des vecteurs dans votre programme, vous pouvez écrire juste des fichiers séquentiels au format texte. Mais dès que vous avez besoin de stocker des tableaux de nombres multidimensionnels, je vous conseille de les écrire dans des fichiers NetCDF.